France Musique.
Sept heures et demie, bonjour, merci de vous réveiller avec France Musique. Toute l'équipe de France Musique est à vous et ravie de vous retrouver pour une heure et demie d'œuvres et d'interprètes que vous nous suggérez. Un géant nous a quittés cette semaine, Nelson Frère, vous êtes nombreux à vouloir l'écouter encore et encore, ses doigts de velours si discrets et si puissants. Le scherzo numéro 4 de Chopin par Nelson Frère, l'une de vos propositions, nous attend, ce sera vers 8h25. Et d'autres découvertes et idées bien sûr au programme, Lully, la chanteuse Léa Castro, le pianiste Boris Petrouchansky, ou encore Charles Quéclin. Nous diffusons ce qui vous porte et vous met du baume au cœur, et tout ça en le partageant avec nous, avec vos mots et vos émotions. Notre jeu pour gagner ce matin, le disque de Raphaël Imbert et Joanne Fargeau, les 1001 nuits du jazz enregistrées au Bal Blomé à Paris. Rendez-vous à 7h50 dans 20 minutes pour jouer avec nous en répondant à notre question. Au programme des chroniques à 8h, une œuvre, trois idées avec Marc-Olivier Dupin. Ce matin, l'œuvre décortiquée en question, la gigue pour piano de Mozart, Köchel 574. Et puis à 8h50, un tendez l'oreille avec Christophe Dillis, malade, mais au téléphone quand même avec nous, il va tenter tant bien que mal de parler d'un compositeur malade, Robert Schumann. Nous débutons notre programmation musicale grâce à Rémy, à Cachan, dans le Val-de-Marne. Schubert, La jeune fille et la mort. J'aime beaucoup cette pièce, nous dit-il, qui m'est revenue en tête à la Toussaint, avec le romantisme de l'automne aussi. Le scherzo convoque justement quelques démons. Nous n'étions pas loin d'Halloween.
Thank you.
nouveauté de disque du Quatuor Hermès avec ce scherzo du Quatuor à cordes numéro 14 en ré mineur, dit La jeune fille et la mort, de Franz Schubert, donc interprété par le Quatuor Hermès, paru chez La Dolce Volta. Merci pour toutes vos suggestions qui nous arrivent. Notre adresse mail, France Musique est à vous, @radiofrance.com. Nous sommes là en direct en studio, nous les attendons impatiemment. Et vous êtes aussi, il est possible aussi de venir nous dire ce que vous souhaitez écouter sur les réseaux sociaux de France Musique, Twitter, Facebook et Instagram. Et tout de suite, le message vocal, le premier que nous écoutons, les confidences de Michel autour du Clair de Lune, ce troisième mouvement de la suite bergamasque de Debussy.
Bonjour Gabriel, je reviens vers vous pour raconter à nos amis auditeurs un souvenir d'enfance très lumineux, très réconfortant. Figurez-vous qu'à l'âge de 10 ans, j'étais déjà dans un internat dont je garde de bons souvenirs, sauf ces deux choses qui m'oppressaient. D'abord les récrés, surtout les footballeurs de mon âge qui se moquaient de mes jolies mains de fille, je dirais ça comme ça, et aussi mon supérieur en japonais qui s'intéressait exagérément à ses mains en les couvrant de baisers. Alors pour fuir, je me réfugiais durant la récré de midi dans la salle des fêtes du petit séminaire où j'étais autorisé à travailler mon piano. C'est là qu'opérait la magie d'une merveilleuse musique. J'exécutais cette partition bien trop difficile pour mes petites mains, et pourtant là, dans cet air mélodieux, dans cette immense salle des fêtes, l'enfant que j'étais avait l'impression de se blottir ailleurs, en sécurité, au fond d'un jardin bleui de lune, dans le giron des fées qui étaient comme de jolies mamans secourables. Merci à France Musique.
Et pour retrouver le monde de l'enfance, Michel souhaitait que nous écoutions cette œuvre non pas au piano, mais dans la version chantée et enchantée des Swingle Singers. 7h37, bienvenue sur France Musique.
Thank you.
Clair de lune, troisième mouvement de la suite bergamasque de Claude Debussy, arrangé pour ensemble vocal et à l'instant interprété par les Swingle Singers. À 7h42, nous accueillons tout de suite notre premier auditeur depuis Toulouse, Joël. Bonjour Joël.
Bonjour Gabriela, je suis à Aix-en-Provence.
Ah, vous êtes à Aix-en-Provence. Alors, vous étiez corniste à l'Orchestre National de Lyon pendant de nombreuses années.
Oui, pendant près de 40 ans.
Et vous êtes également prof de cor?
Alors, j'ai été prof de cor, je suis prof de musique de chambre, oui.
Au CRR de Lyon, c'est ça, toujours?
Alors, j'ai été professeur de musique de chambre CRR de Lyon. Maintenant, j'enseigne au pôle supérieur d'Aix-en-Provence, la musique de chambre pour des grands étudiants.
Que vous jouez vous-même? Que jouez-vous en ce moment, Joël?
Je continue à travailler mon instrument par plaisir, à faire quelques... Je suis plutôt jeune et donc... Un instrument à haut niveau réclame beaucoup, beaucoup de travail, donc je le fais pour mon plaisir et puis c'est une thérapie intellectuelle.
Alors, dans le cadre de votre carrière à l'Orchestre National de Lyon, vous avez joué une pièce sous la direction de Heinz Holliger, une pièce de Charles Quéclin, que vous vouliez nous faire découvrir ce matin.
Exactement, oui. Heinz Holliger venait régulièrement à l'Orchestre de Lyon et venait toujours avec sous le bras des partitions il y a un peu inattendu, comme la symphonie de chambre de Schoenberg ou un petit opéra de Haydn, l'Isola des Habitata. Et puis un jour, il est venu avec cette pièce de Quéclin, oui, et effectivement, vers le ciel étoilé, qui est une très très belle pièce où il montre tout son génie de l'orchestration et sa passion pour l'astronomie.
Oui, quoi, c'est ça. Vers la voûte étoilée, son opus 129 qu'il a composé dans les années 1920-1930, mais créé bien plus tard, donc en 89. En Allemagne, et donc avec cette œuvre, on apprend, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, qu'il était lui-même passionné par le ciel et donc par l'astronomie. Il avait même fait quelques études peut-être d'astronomie. Oui. En tout cas, l'œuvre est dédiée aussi à un astronome, Camille Flammarion.
Oui, il avait fait Polytechnique et il s'est tourné vers la musique pour des raisons de santé, mais c'était un homme très éclectique et qui a laissé un magnifique traité d'orchestration.
Vous nous disiez que les musiciens de film l'ont écouté. Que vouliez-vous dire par là, Joël, en décrivant sa musique?
Je pense que quand on écoute sa musique, c'est un peu comme la musique de Mahler ou Korngold. C'est des gens qui avaient un imaginaire visuel. Et je pense que les musiciens de film ont écouté Quéclin aussi, parce que on va le voir avec cette pièce notamment, c'est la musique très très descriptive et très très belle et très harmonieuse et qui fait travailler l'imaginaire.
Et vous, en tant que corniste, jouer la partie de corps de cette partition, c'était quelque chose de fabuleux pour vous, un bon souvenir?
Oui, c'était surtout la découverte de la pièce, parce que quand on est corniste, on joue tellement le grand répertoire, les symphonies de Mahler, de Beethoven, de Brahms, et on a des partitions tellement belles que, évidemment, jouer la partition de Quéclin était aussi un grand, grand, grand plaisir.
Eh bien, merci beaucoup, Joël, pour ces mots, cette expérience. Effectivement, la découverte, en tout cas pour nous, dans l'équipe, une belle découverte vers la voûte étoilée de Charles Quéclin, que nous allons écouter grâce à vous. L'Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart, cette fois, mais sous la direction, comme vous nous en parliez, toujours de Heinz Holliger, ici. Un grand merci, Joël. Bon week-end.
Merci à vous. Merci pour vos émissions.
C'est une évasion loin, très loin de la terre, mais non des sentiments humains. C'est ainsi que le compositeur Charles Quesclin caractérise ce nocturne pour orchestre vers la voûte étoilée, l'opus 129 par l'orchestre symphonique de la radio de Stuttgart à l'instant, dirigé par Heinz Holliger, une musique très descriptive, comme nous le disait Joël à l'instant au téléphone, et la description de ce ciel, du mouvement des astres. Il est l'heure de jouer tout de suite à 7h53. Je vous laisse donc vous diriger vers l'onglet « Contactez-nous » à la page de notre émission « France Musique est à vous ». Sur le site francemusique.fr, vous répondez à notre question. N'oubliez pas vos coordonnées complètes parce que nous vous offrons des disques, autant qu'ils se retrouvent dans la bonne boîte aux lettres. Alors à gagner ce matin, les 1001 nuits du jazz, disque de Raphaël Imbert et du pianiste Joan Fargeau sous le label MDC. Raphaël Imbert, grand saxophoniste et directeur du Conservatoire de Marseille. Et Marseille, justement, France Musique, qui sera la semaine prochaine du 12 au 14 novembre. Micro et studio qui s'installeront pour célébrer le bicentenaire du conservatoire de la ville, conservatoire Pierre Barbizet. Marseillais d'ailleurs, un message pour vous, nous vous ouvrons le micro pour notre émission samedi prochain. Venez nous parler ici de votre région musicale, des artistes du coin, de la vie culturelle marseillaise à partager avec nous. Et pourquoi pas, si vous êtes vous-même étudiant au conservatoire, venez nous raconter tout ça. Nous comptons sur vous et vous pouvez nous écrire sur notre adresse. France Musique est à vous, @radiofrance.com. Bon, je m'égare. La question, la voici ce matin pour gagner le disque de Raphaël Imbert et Joan Fargeau. Depuis quelle année Raphaël Imbert est-il le directeur du conservatoire de Marseille, justement? Depuis quand Raphaël Imbert est-il directeur du conservatoire de Marseille? Vous nous donnez la bonne année et si vous êtes tiré au sort, vous recevrez son dernier disque. Et quant à moi, je vous donne évidemment la réponse juste avant 9h et le nom des gagnants.
Thank you.
joyeux réveil à 7h59 avec France Musique. C'était un petit clin d'œil à toute la maison ronde, un peu de brass band proposé par Rémi sur Twitter pour notre émission. Et précisément, le Philip Jones Brass Ensemble avec l'une des, ou l'un des Lollipops, ces miniatures, pièces chéries des musiciens et du public, que l'ensemble joue régulièrement, des pièces connues, arrangées pour brass band, donc il peut y avoir le vol du bourdon ou encore une danse de Grieg. Et puis aussi, cette composition de Jim Parker, la vision personnelle d'un londonien, le compositeur lui-même, à New York, et y compris, à l'instant, la dernière partie de ce A Londoner in New York. Ça s'appelle, ce cinquième mouvement, Radio City, donc une sympathique salle, comme il le décrit, la salle de spectacle Radio City. 7h59, donc, toujours, dans quelques instants, la suite de votre programmation musicale.
Lundi sur France Musique, le concert de 20h est en direct de la Philharmonie de Paris avec l'orchestre de l'Opéra de Paris et son nouveau directeur musical Gustavo Dudamel. Un programme Paris en fête avec la très romantique Symphonie fantastique de Berlioz et la Symphonie numéro 31 dite Paris de Mozart. En ouverture de soirée, Alborada del Gracioso de Ravel. Une soirée à ne pas manquer. Rendez-vous lundi à 20h sur France Musique et sur francemusique.fr.
Il est 8h, merci d'écouter France Musique, bienvenue à vous et bon début de week-end, le 1er du mois de novembre. Alors encore au lit, debout pour l'ouverture du marché, en route, au travail, à l'étranger ou dans votre salle de bain, vous êtes tous conviés ici et invités à nous suggérer ce que vous aimeriez entendre ici même, oui, avec vos mots bien sûr. Alors, on vous attend. À 8h50, la chronique de Christophe Dilis, malade. Au téléphone quand même, il va tenter tant bien que mal de parler d'un autre compositeur, en tout cas d'un autre musicien malade, Robert Schumann. Et tout de suite, eh bien, c'est le moment de la chronique de Marc-Olivier Dupin. Sa chronique, une œuvre, trois idées.
Une œuvre, trois idées, Marc-Olivier Dupin.
Chaque samedi, j'adore vous accueillir avec ces petites notes de musique. C'est de vous, n'est-ce pas ?
Oui, oui, oui.
Marc-Olivier Dupin, bonjour.
Bonjour, Gabriel.
Alors, vous nous parlez d'une œuvre de Mozart relativement peu connue.
Oui, de la gigue pour piano Köchel 574.
Qu'elle est belle. Étonnant, en effet. Alors, Marc-Olivier, quelle est votre première idée dont vous souhaitez nous faire part ce matin ?
Alors, je veux d'abord vous parler des ingrédients de cette gigue, ou plutôt de qui Mozart s'est inspiré. Une fois encore, on trouve là un compositeur qui fait du neuf avec du vieux. Bon, même du temps de Mozart, la gigue, c'est du vieux. Le merveilleux dictionnaire musical anglais, le Grove, nous précise que la gigue apparaît dès le 15e siècle. Et pour faire court, cette danse populaire prend au fil du temps des formes un peu différentes selon les pays. Comme par exemple, cet extrait de la suite pour clavecin de Handel dont Mozart s'est inspiré. Alors c'est plus sage que Mozart, mais on sent tout de même les premières notes qui sont dans un rapport de ressemblance assez fort.
Alors Marc-Olivier Dupin, après cette première idée, la deuxième, on veut la connaître.
Alors elle a trait à la façon géniale dont Mozart utilise son thème, au moins pour deux raisons. D'abord, il croise la gigue avec la fugue, c'est-à-dire cette forme populaire, très populaire, avec une forme complètement savante. Mmh. Alors on arrive à une forme un peu hybride et géniale en l'occurrence, c'est un peu comme dans la mythologie, la sirène qui est à la fois poisson et femme, ou le centaure, cheval et homme. On en trouve d'autres exemples de ces fugues, gigue-fugue, notamment chez Scarlatti dans la célèbre sonate connue sous le nom de la fugue du chat.
Thank you.
Et par ailleurs, on peut aussi penser que cette gigue est un hommage à Bach dans la mesure où il s'inspire du magnifique thème du thème très torturé d'ailleurs de la fugue en si mineur du clavier bien tempéré, ici joué par Glenn Gould. Et avec ces ingrédients, il compose la plus sublime des gigues qui s'inscrit avec virtuosité et couleur dans les canons de la rhétorique classique. Forme très courte, très belle, très ramassée, comme un sommet. Un sommet, mais un sonnet, surtout.
Absolument. Marc-Olivier, la troisième idée pour cette gigue.
Alors, la troisième idée, c'est une idée un peu étonnante. C'est en fait l'amour magnifique pour cette gigue qu'un compositeur qu'on n'attend pas sur ce terrain-là, lui porte Tchaïkovski. En 1887, il compose une suite pour orchestre intitulée Mozartiana, faite un peu de bric et de broc dans laquelle il orchestre intégralement cette gigue sans en changer une seule note. L'orchestre n'a plus rien de baroque, c'est un orchestre du 19e, gourmand de riches textures, mais on ne peut voir dans cette démarche que comme un extraordinaire acte d'amour de Tchaïkovski pour cette petite pièce de Mozart.
Tchaïkovski et Mozart en même temps avec cette suite pour orchestre Mozartiana d'après la gigue dont vous nous parliez Marc-Olivier ce matin, la gigue pour piano Köchel 574. Merci beaucoup.
Mais avec plaisir.
Alors vous nous avez fait écouter la fugue du chat de Scarlatti, j'ai regardé, c'est la Kirkpatrick 30 et en parlant de chat, eh bien vous serez demain à la scène musicale. À la direction, et c'est votre musique en plus, à 11h et 16h, la scène musicale c'est à Boulogne, et ce sera le chat du rabbin d'après Sfar évidemment. Vous dirigez un ensemble de musiciens, et puis il y aura comédiens sur scène, et puis des projections, des dessins également.
Absolument, absolument. Un autre chat.
Voilà, et d'ailleurs on peut peut-être terminer sur une touche un peu personnelle, parce que j'aime beaucoup le prénom de votre chat à vous.
Mais vous êtes très indiscrète. Mon chat s'appelle Jean-Poil.
Voilà, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, et donc demain la scène musicale, 11h et 16h pour le chat du rabbin, d'après Sfar et musique de Marc-Olivier Dupin. Bon week-end.
Merci Gabriel, vous aussi.
Gabriel Olivier Aguillon, France Musique est à vous. Thank you.
À l'instant, une proposition de Louis à Gourdon, en Quercy, dans le Lot, par ce temps automnal, le devenu tube de Rameau, la danse des sauvages, un bon énergisant à écouter ce matin. Et voici donc son souvenir à propos de ces sauvages, à l'instant dirigé par Louis-Noël Bestion de Camboulas, son ensemble Les Surprises et Yves Reichsteiner à l'orgue. Il nous dit « Je me souviens d'un festival dans un château viticole des Graves dans le Bordelais il y a 8 ans. L'ensemble baroque Les Surprises avait joué et dansé en costume du Rameau et il y avait donc cette fameuse danse des sauvages. Nous avons eu droit à une dégustation de vin, mais aussi à une petite initiation à la danse avec certains membres de la troupe des Surprises. Nous avons rejoint dans la nuit un pavillon de pierre dans les vignes et nous avons dansé. Les chauves-souris nous survolaient et le grand chien des propriétaires de ce charmant château circulait entre les danseurs. Quel souvenir heureux! Et justement, nous dit Louis, je viens de voir le film documentaire Les Indes Galantes de Philippe Béziat. On y présente le making-of de l'adaptation à notre époque de cet opéra par le jeune Clément Cogitor, donné à l'Opéra Bastille il y a quelques années. Je trouve les danseurs époustouflants d'énergie. Et Louis termine avec ces mots qui nous font bien plaisir. Merci pour votre émission si vivante qui nous rassemble en toute simplicité autour de la musique. Et tout de suite, nous accueillons Jeanne. Bonjour Jeanne.
Oui. Bonjour Gabrielle.
D'où nous appelez-vous Jeanne ?
Du Val-de-Marne, de Saint-Mandé.
Alors, que faites-vous dans la vie Jeanne ? Il y a la musique beaucoup chez vous ?
Beaucoup de musique. Je suis maintenant retraitée. Mm-hmm. J'ai travaillé durant 40 années et maintenant j'ai beaucoup de loisirs. Donc j'ai effectivement tout loisir d'écouter beaucoup de musique, notamment votre radio.
Vous allez beaucoup au concert également ?
J'y vais. Je me suis d'ailleurs le dernier concert auquel je me suis rendue est celui de Léa Castro et Antoine Delprat dont je vous parlais justement.
Oui, c'était au
Sunside.
Au Sunside, d'accord.
Au Sunside.
Ils sont passés aussi.
Le 21 octobre dernier, ils sont passés. Et comme j'avais beaucoup aimé, je les avais entendus sur FIP, mm-hmm. Le club jazz. J'avais entendu la chanson d'automne, le poème de Prévert.
Oui.
J'avais donc souhaité écouter tout leur disque qui se nomme Fall et j'ai beaucoup aimé parce que il y a une déteinte automnale, il y a des très belles mélodies, des très beaux arrangements et la voix de Léa Castro est superbe.
Ils sont passés également à Aix-en-Provence le 22 octobre, donc certainement le lendemain de
Absolument.
Votre concert, vous. Léa Castro et Antoine Delprat, un beau duo donc qui vous a tout de suite plu à l'écoute.
Absolument, j'ai beaucoup aimé, donc je me suis intéressée, j'ai regardé, j'ai écouté, et j'ai eu un vrai coup de cœur, parce qu'il y a vraiment beaucoup de raffinement, beaucoup d'élégance, des compositions également. J'ai trouvé que c'était très poétique, et il y a, comme je vous disais, des teintes automnales qui sont très très agréables à écouter.
Ça vous arrive souvent d'écouter la radio, de faire une découverte, et puis d'aller plus loin, d'acheter le disque, d'aller au concert ?
Ça arrive, mais là, c'est vrai que j'ai eu un vrai coup de cœur.
Alors, vous nous avez suggéré d'écouter deux chansons. On a choisi celle de Joni Mitchell, une chanson qui date des années 60, Yours for Going, donc par Léa Castro, Antoine Delprat.
C'est
une chanson que vous connaissiez ?
Que j'avais déjà entendu, mais j'avais également le coup de cœur pour Saturne.
Oui, les deux sont très belles.
Les deux sont très belles, mais je vous laisse le choix.
Et ben
c'est
voilà.
Un très beau choix, de toute manière. En tout cas, j'espère que ça va ravir les auditeurs et que j'espère avoir fait partager et qu'ils vont apprécier, aimer et vouloir connaître davantage ce très très beau duo.
C'est très gentil, vous êtes là pour ça. Merci beaucoup pour le partage.
Merci à vous Gabrielle, merci beaucoup pour votre accueil et merci pour vos émissions.
Merci Jeanne, bon week-end.
Bon week-end à vous, au revoir Gabrielle.
I walked today and found the frost patched it on the town. It hovered in a frozen sky, and it gobbled summer down. When the sun turned straight cold in, all the trees are shivering in naked row. I get the urge for going, but I never seem to go. Get the urge for going when the meadow grass is down and brown. Summer summer, call it skin. Not another girl in town, my darling heart's could win. But when their lips fell on the ground, bully wings came round, pushed them face down in the snow. They got the urge for going, and I had to let him go. Got the urge for going when the meadow grass is down and brown, summertime is falling down, winter is closing in. Now the warriors of winter, they give a cold triumphant shout. The wings so they can go. Get the urge for going when the meadow grass is down and brown. Summertime is falling down, winter is closing in.
La voix de Léa Castro et le piano d'Antoine Delprat dans cette chanson de Joni Mitchell, Urge for Going, un extrait de leur disque Fall. 8h20, merci d'écouter France Musique. France Musique est à vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et nous écoutons vos suggestions qui nous arrivent pendant la semaine ou pendant le direct. Merci à vous de participer. C'est grâce à vous que nous diffusons et profitons de tout ce partage musical. Jean à Évreux, Dominique à Morbec, Alain, Marie à Ennemont, Alain à Rennes, Michel à Amboise, Jean-Michel qui lui nous écoute depuis la Belgique, ou encore Christian à Anisy. Et puis, nous écoutons maintenant le deuxième vocal qui nous a été envoyé. Le voici.
Bonjour, je m'appelle Annick. Je suis présidente de l'association Juventus Europe avec Alexandre Tarot, vice-président, et Georges Garat, directeur artistique. Ce festival, qui a duré 25 ans, a quitté Cambrai en 2016 et cherche à renaître dans un nouveau lieu. C'est justement grâce au Festival Juventus que j'ai découvert l'orchestre Les Siècles en 2009. Françoise Aviérotte, tambourinant et invitant le public à se lever et à danser sur la marche turque de Lully. Avec l'un de mes fils, qui était petit à l'époque, cela reste un souvenir très joyeux et inoubliable. Je serais très heureuse de réécouter cette marche turque jouée par Les Siècles à l'occasion de l'anniversaire de notre cher François-Xavier Roth.
enregistré en 2006. À l'instant, l'ensemble, l'orchestre Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth dans cette marche pour la cérémonie des Turcs, extrait du Bourgeois gentilhomme, évidemment de Lully et de Molière, une comédie-ballet créée devant Louis XIV en 1674 au château de Chambord, ce caractère pompeux et solennel. Et bien donc, bon anniversaire François-Xavier Roth, 50 ans aujourd'hui, et aujourd'hui également un autre anniversaire d'un grand monsieur, le contre-ténor britannique James Bowman, qui fête ses 80 ans. Nous avons reçu un message de François qui, lui, est à Aubonne dans le Doubs. J'ai été très peinée d'apprendre lundi dernier, le 1er novembre, la disparition du pianiste brésilien Nelson Freire. Et je remercie, nous dit-il, Philippe Cassard pour le bel hommage qu'il lui a rendu dans Portrait de famille, d'ailleurs une émission, bien sûr, à réécouter sur francemusique.fr à la date de samedi dernier. Je suis bénévole, nous dit François, au Nohant Festival et j'ai rencontré Nelson Frère à un cocktail dans le parc de la maison de George Sand à l'issue de son récital qu'il venait de donner. Ce fut un moment très touchant pour moi d'avoir pu entrer en relation avec le maestro et de me faire dédicacer l'un de ses enregistrements. Personnellement, j'apprécie les interprètes sud-américains et j'associe bien volontiers Nelson Frère à Claudio Arrao ou Miguel Angel Estrella, qui sont pour moi de la même trempe sur le plan de la sensibilité de leur interprétation. Pour que je puisse dire adieu à cet illustre musicien une dernière fois, pouvons-nous l'écouter dans votre émission dans le Scherzo numéro 4, opus 54 de Frédéric Chopin? Voilà pour la petite anecdote toute simple avec ce génie du piano que je garderai à jamais enfoui dans mon cœur. Thank you. 10 minutes encore avec Nelson Frère au piano qui nous a quittés il y a quelques jours. Et là, à l'instant, dans le scherzo numéro 4, opus 54 de Frédéric Chopin, tout un dossier hommage au pianiste est à retrouver sur notre site francemusique.fr, des émissions, des articles, des concerts. François nous parlait du bel hommage de Philippe Cassard, c'était dans la matinale cette semaine. Et là, tout à l'heure, à 14h, il consacrera son portrait de famille, il rendra hommage à ce grand pianiste brésilien qui nous a donc quitté à l'âge de 77 ans. Et ce week-end, encore une émission hommage, c'est demain matin, le bac du dimanche par Corinne Schneider entre 7h et 9h, donc au programme de cette émission, un hommage au pianiste Nelson Frère, donc demain à 7h. Et puis à réécouter bien sûr la soirée de concert qui a été consacrée lundi, deux archives fabuleuses, son récital à la Roque d'Anteron en 2013 et le concerto numéro 2 de Chopin avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la baguette de Mico Franck, c'était en 2019, des concerts donc à retrouver, à réécouter à la page du 1er novembre, le concert de 20h, un concert, des concerts accessibles pendant un mois sur notre site. À 8h39, nous accueillons Philippe. Bonjour Philippe.
Bonjour Gabriel.
Vous habitez Toulouse?
Exactement, ville de musique.
Absolument, vous avez 55 ans et vous êtes professeur. Qu'enseignez-vous Philippe?
Alors j'enseigne l'histoire-géographie et puis pendant mes loisirs, j'occupe aussi des fonctions bénévoles au sein d'un cinéma associatif qui s'appelle l'ABC, que connaissent beaucoup de Toulousains, je pense, et qui diffusent assez régulièrement d'ailleurs des films autour de la musique. Mmh. Voilà. Puis évidemment, j'essaye d'aller au concert le plus souvent possible.
À Toulouse, qu'avez-vous vu récemment comme concert, Philippe? Qu'avez-vous écouté?
Alors, l'ensemble Jupiter, par exemple, mmh, avec Thomas Dunford, le groupe vocal Voices 8,
oui,
un groupe vraiment magnifique. Mmh, de
on les a diffusés récemment, oui.
Voilà, et puis mais l'offre est abondante, puisqu'entre le Théâtre du Capitole, l'Orchestre du Capitole, l'Orchestre de Chambre, des festivals comme Piano Jacobin,
bien sûr, tout récemment, ouais.
Enfin, voilà, et puis une association formidable qui fait un travail vraiment épatant qui s'appelle les Arts Renaissants, qui propose 6 concerts par an de musique baroque pour beaucoup, mais pas seulement. Mmh. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai découvert Zachary Wilder.
Ténor américain que vous avez donc vu en concert, c'était quand?
Alors, c'était juste avant le premier confinement, en fait. C'était en février 2020. Il n'était pas attendu, d'ailleurs. C'était un autre ténor qui devait venir. Et il était au sein de l'ensemble Tictatus. Mm-hmm. C'est un ensemble dans lequel on trouve également Lucille Richardot. Et ils avaient donné un programme Purcell, qui était un programme absolument magnifique. Et là, ça a été pour moi une révélation d'entendre ce chanteur.
Que vous ne connaissiez pas, donc.
Que je ne connaissais pas du tout, et ça a été la révélation d'une voix, magnifiquement timbrée, pure, simple, sans effet, sans pathos. C'était vraiment un choc. Et je l'ai retrouvé, donc, il n'y a pas très longtemps, dans l'une de vos émissions, un matin, où vous avez diffusé son dernier disque. Mmh. Et là, ça a été à nouveau un coup de foudre, et j'ai acheté le disque, je l'écoute régulièrement. Voilà.
La musique de John Dowland.
Exactement, voilà.
Qu'est-ce qui vous touche tant, en tout cas dans ce disque-là, sa voix, donc là il est accompagné par l'ensemble La Chimera, dirigé par Eduardo Eguez.
Ouais. Ce qui me touche, c'est l'émotion qui se dégage de cette musique. C'est une musique très simple, une musique, je dirais, d'une grande noblesse, d'une grande simplicité. Alors là, évidemment, il s'agit de tristesse,
oui,
de larmes, de mélancolie, voilà, de solitude. Mais en fait, paradoxalement, je trouve que cette musique est réconfortante. Hein, elle n'est pas du tout déprimante. Elle est douce, chaude, voilà. Et pour moi, ça me touche beaucoup. Mmh. Vous verrez, les auditeurs se rendront compte du début du morceau qui est comme susurré. C'est très touchant.
Ouais, c'est l'élégance de la musique élisabéthaine, effectivement.
Voilà.
Et donc ce titre, Oh Sweet Wood, The Delight of Solitariness de John Dowland, avec cette très belle voix de Zachary Wilder que nous écoutons grâce à vous ce matin. Un grand merci Philippe, beaucoup. Et puis on salue vos élèves qui vous ont peut-être reconnu. Vous leur enseignez quoi en ce moment? Vous êtes dans quelle période avec eux?
Ah ben alors ça dépend des niveaux, mais donc en terminale, on parle par exemple de la crise de 29 et de ses conséquences. En seconde, on est dans l'Antiquité, le Moyen-Âge, etc. Enfin bon, toutes les périodes sont abordées suivant les différents niveaux du lycée.
Merci beaucoup, Philippe, d'avoir partagé
Merci
ce moment
vous.
Avec nous.
Un grand plaisir. Au revoir.
sweet woods, the delight of solitariness. Oh, how much do I love your solitariness. From fame's desire, from love's delight, retired in these sad groves and hermit's life I led. And those false pleasures which I once admired, with sad remembrance of my fall I dread. To birds, to trees, to earth impart I this. For she less secret and as senseless
musique de Joan Dolan sur France Musique à 8h47 avec cet air au Sweet Woods interprété par la très belle voix du ténor Zachary Wilder, accompagné par l'ensemble La Chimera dirigé par Eduardo Eguez. C'était justement le disque du jour dans Piste présenté par Émilie Munera et Rodolphe Bruno Boulmier hier, donc entre 9h et 11h. Tout de suite, le message de Carlos. Une des belles histoires de l'émission où les choix des uns peuvent plus que ravir les autres. Carlos, bonjour.
Bonjour à tous. J'aimerais vous proposer un morceau ici qui tient pour une réponse. car il y a quelques semaines, une jeune femme avait prescrit pour vos oreilles un compositeur injustement méconnu, Zaderatsky. Depuis cette écoute, ma vie a, comme qui dirait, changé. Merci du fond du cœur à elle. J'aimerais, pour sceller ce remerciement, lui dédier une pièce sublime de piano de Dmitri Shostakovich. C'est le premier mouvement, le premier prélude de ses 24 préludes, opus 34, ici interprété par Boris Petrouchansky. C'est une définition en un peu plus d'une minute trente du sublime. Et certes que l'harmonie se détraque petit à petit, il y a là une tendresse particulière à cette basse d'Alberti, souriante, à un thème langoureux et chromatique, à cette cadence finale qui essaye de rattraper un ut tout maladroit. C'est là un verbiage tout spécieux qui remplace le saisissement que j'ai, du moins, personnellement, dès le début de cette pièce, dès que la basse arrive. Laissez-moi juste le temps de remercier encore une dernière fois Anna pour Zaderatsky et tout ce qui s'ensuit. Bonne écoute.
Un prélude très court, prélude pour piano en ut majeur, opus 34, numéro 1. C'était l'Allegretto de Shostakovich, interprété par Boris Petrouchansky. On espère, Anna, que vous écoutiez l'émission, parce que vous avez donc changé la vie de Carlos. Et ça, on en est très fiers dans cette émission. Merci pour vos réactions aux suggestions des uns et des autres. Ça fait aussi le charme de cette heure et demie avec vous chaque samedi matin. Merci à vous qui nous écrivez. Cécile à Bailly, Vincent à Montreuil, Marie-Thérèse dans la Marne, Adrien, Jacqueline qui, elle, souhaite écouter le De Profundis de Lully, ce sera pour très bientôt promis. Bonjour aussi à Françoise Apo ou encore Françoise qui nous suggérait d'écouter une œuvre de Strauss, ça aussi ce sera peut-être pour la semaine prochaine. Et puis nous avons reçu un message de Joël qui est à Aix-en-Provence, je pense que c'est le même Joël qui était avec nous en début d'émission. J'ai un souvenir, nous dit-il, de Nelson Frère en tournée en Allemagne. Il jouait nuit dans les jardins d'Espagne de Faya et c'était totalement magique, un musicien au au-delà du pianiste. Et bien tout de suite à 8h51, il est l'heure de la chronique un peu particulière, Tendez l'oreille, de Christophe Dillis.
France Musique, Tendez l'oreille, Christophe Dillis.
Christophe Dillis, vous en faites pas un peu trop là quand même?
Quand je suis malade, je suis malade.
Êtes donc au téléphone. Alors,
voilà, je suis malade.
Oui, qu'est-ce qui se passe, Christophe? On sait pas. Hein.
Bon, la crève de saison.
Alors ça vous a donné l'idée de faire une chronique sur musique et maladie, vaste sujet qui pose une question plus profonde. Faut-il associer humain et artiste pour mieux l'apprécier?
Bonne question, importante question pour les auditeurs que nous sommes, parce que c'est vrai que quand on y pense, en musique en tout cas, pour expliquer l'œuvre, on fait souvent appel à la biographie de l'auteur, ce qui peut donner des analyses un peu clichés du type.
En 1853, il ne lui restait plus que 15 ans à vivre, ce qui explique la tonalité particulièrement tragique de cette symphonie.
Voilà, qui n'a pas lu ça ou entendu ça quelque part avant d'écouter une symphonie vaguement mélancolique.
Mais d'ailleurs, oui, ça vient d'où justement ce besoin de parler du compositeur quand on parle de son œuvre?
Bah, je crois qu'on a besoin de ça pour décupler les sensations. On a besoin de génie. Et on se dit que c'est dans l'épreuve que se renforce le génie. De l'ordre de, eh ben, figurez-vous qu'en plus, il était sourd, Beethoven, mais quel génie! Et en plus, il était aveugle, Ray Charles, incroyable. Et sur un autre plan, on pense à Carlo Gesualdo. Ah, la musique d'un meurtrier du XVIe siècle. On peut l'entendre, hein, que c'est la musique d'un tordu. Un des exemples les plus tangibles, c'est Niccolo Paganini, au XIXe siècle. Un excellent violoniste virtuose, moui, ou un musicien qui a vendu son âme au diable. Ah, voilà, ça fait déjà un peu plus frissonner.
Alors, Christophe, il y a un compositeur qui brouille un peu les pistes, selon vous.
Oui, c'est Robert Schumann. Robert Schumann, compositeur et pianiste de la première moitié du 19e siècle, est assez souvent, peut-être même plus encore que Chopin, le compositeur qu'on évoque lorsqu'on parle musique et santé. Parce que on parle de santé mentale, ça veut dire que là, on entre vraiment dans la magie du processus. Durant toute sa vie d'adulte, c'est documenté, Schumann était en proie aux sautes d'humeur les plus extrêmes. Certains psychiatres n'hésitent pas à employer le terme de bipolarité en parlant de Schumann, des épisodes qui soit l'empêchait de composer, soit le faisait composer énormément. À 25 ans, il écrit la pièce qui semble résumer tous les symptômes, Carnaval, un cycle de 21 pièces pour piano qui déroule un très subtil et très exhaustif spectre des humeurs de l'artiste, l'exubérance, l'angoisse, le caprice, la mélancolie, la confession, autrement dit, un plaisir pour les amateurs d'analyse musico-psychologique un peu simplette. On va écouter un extrait. Préférez-vous dire que c'est la musique folle ou qu'il s'agit d'un jeu amoureux sur A-S-C-H, la, mi bémol, do, si, H, c'est-à-dire en même temps la ville natale de son Ernestine von Fricke et certaines lettres du mot Schumann.
Finalement, Christophe, dans les deux cas, l'explication de l'œuvre par la biographie du compositeur se tient plutôt bien.
Alors, je ne dis pas le contraire. La frontière entre génie créatif, problème de santé mentale et détails biographiques est très poreuse chez Robert Schumann. Mais le problème, c'est qu'on finit par ne plus voir que ça. Plutôt que de voir des inventions harmoniques et formelles astucieuses, on préfère les expliquer comme les incohérences d'un fou parce que ça nous fait frissonner.
Alors, vous ne dites pas ignorer la biographie de l'auteur, mais plutôt ne la laissez pas être le seul guide pour l'oreille, en fait.
Voilà, et je voudrais justement terminer avec une œuvre de Schumann qui, à cause de notre vision de Schumann en camisole de force, n'est jamais vraiment entrée au répertoire. Composée quelques jours avant sa tentative de suicide par noyade, Gesänge der Frühe, Chant de l'aube en français, est un cycle que Clara Schumann n'a jamais osé jouer en public et que même encore aujourd'hui, on ne joue que peu parce qu'on n'arrive pas à se décider si c'est de la musique géniale ou de la musique folle. Et pourtant, Schumann est bien clair, cette pièce ne décrit pas son état mental, il s'agit plutôt de...
Décrire les émotions à l'approche du lever du soleil, il s'agit vraiment plus de sentiments que de tableaux.
Mais oui, Schumann a le droit de composer de la musique psychologique sans qu'on le prenne pour un fou. Mais voilà, parce qu'on s'est convaincu qu'on ne sait pas trop où cette musique va, parce que Schumann lui-même n'était pas très sûr de sa plume sur ce coup-là, on ne l'écoute plus pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la peinture de ce qu'on ressent devant la lumière de l'aube. Tendez l'oreille.
Merci beaucoup Christophe Dilis. Vous êtes avec nous encore au téléphone ?
Oui.
J'ai l'impression que c'est dans cette épreuve que s'est renforcé votre génie également.
Voilà, j'ai écrit ça dans un, dans une vapeur de Vaporex Rub 800 grammes. Là, en fait.
Dans un état second, en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. On vous souhaite de bien vous rétablir. Et puis, on espère surtout vous voir la semaine prochaine. Semaine prochaine, vous savez, qui est consacrée à Marseille. Donc, on attend les auditeurs marseillais pour venir se confier à nous et autour de la vie culturelle de cette grande ville. Bon week-end. Dormez bien, Christophe. Pardon ?
Les auditeurs bucco-rhodaniens.
Exactement, ça vous a plu, ça. Merci beaucoup, à la semaine prochaine, évidemment. On peut réécouter votre chronique Tendez l'oreille sur notre site francemusique.fr, ainsi que celle de Marc-Olivier Dupin, évidemment, à réécouter sur l'appli Radio France. Je remercie toute l'équipe de France Musique. Est à vous, ainsi que les techniciens du jour avec nous, Xavier Atto et Swad Boukorsa. La réponse à notre jeu, il fallait répondre 2019, l'année où Raphaël Imbert est devenu directeur du Conservatoire de Marseille. Marseille où donc nous serons toute la semaine prochaine, en tout cas du 12 au 14. Je vous souhaite une très belle journée.
À réécouter sur francemusique.fr.